Radio Café, grand témoin.
Ancien vice-gouverneur de la ville province de Kinshasa, député secrétaire régional à la condition féminine pour la ville de Kinshasa, actuellement sénatrice pour le compte UMLC, Bernadette Nkoyi Mafuta est aujourd'hui l'invité de grand témoin. Bernadette Nkoyi Mafuta, ça y est, la bienvenue.
Merci.
Comment allez-vous?
Très bien, Alain, ça va très bien.
Vous avez beaucoup travaillé dans la territoriale, comme nous le verrons au cours de cet entretien. Vous le savez, le 8 mars de chaque année, l'humanité célèbre la Journée internationale de la femme. Le thème mondial est « Hommes et femmes unis dans la lutte contre les violences faites à la femme », tandis que le thème national est « Leadership agissant de la femme contre le VIH-SIDA ». Vous le savez aussi, le secrétaire général des Nations Unies s'est rendu en visite le samedi dernier après-midi à Goma, après avoir foulé le sol de Kisangani. Dans une interview exclusive à Radio Okapi, Ban Ki-moon a déclaré que la situation actuelle en RDC est plus encourageante qu'elle ne l'était il y a une année, avant la signature des actes d'engagement par les groupes armés congolais à Goma. Le secrétaire général des Nations Unies se dit cependant inquiété par la situation des milliers de personnes déplacées à l'est du pays, et particulièrement celle des femmes et des jeunes filles qui souffrent toujours de la violence et d'abus sexuels abominables, a-t-il déclaré. Le secrétaire général des Nations Unies s'est dit choqué par cette situation après sa visite à l'hôpital Il Africa à Goma. Je vous invite à suivre le point que nous fait Gisèle Cage, notre consoeur qui était sur place.
10 cas de viol ont été enregistrés pour la seule journée de lundi dernier à l'hôpital Il Africa. Depuis les débuts de cette année, au moins 360 femmes ont été victimes de viol dans la ville de Goma. Le secrétaire général de l'ONU, qui s'est dit choqué par cette situation, démontre que les violences et les viols contre les femmes cessent désormais en République démocratique du Congo. Ban Ki-moon reconnaît que si cette situation persiste au Congo, c'est à cause de l'impunité qui se caractérise sur toutes ses formes. Il exige à cet effet un engagement politique de haut niveau en vue de mettre fin à ce qu'il qualifie de fléau. Le secrétaire général de l'ONU demande au gouvernement congolais de ne plus intégrer tous les responsables des viols au sein de l'armée nationale congolaise. On l'écoute.
Les autorités civiles et militaires devraient prendre leurs responsabilités à ceux qui sont responsables dans la chaîne de commande des groupes armés et des forces de sécurité, de faire prendre des mesures pour prévenir et punir la violence sexuelle commise par leur personnel. Ceux qui sont accusés de viol dans les groupes armés ou dans les forces de sécurité ne devraient pas être promus ou intégrés dans l'armée nationale ou la police nationale.
Le secrétaire général de l'ONU a enfin précisé que son souhait est de voir que plusieurs hôpitaux soient créés en RDC et en Afrique en général en vue de prendre en charge ces cas de viol. Notons que 60 femmes victimes de viol et qui ont des cas de fistules attendent d'être opérées pendant ce mois de mars, a précisé Dr Christophe Kimona Moulondoa, médecin directeur de Il Africa. Goma, Gisèle Cage, Radio Okapi.
Bernadette Nkoyi Mafuta, il faut signaler qu'en 1981, vous travaillez comme secrétaire régionale à la condition féminine pour la ville de Kinshasa. Quel sens faut-il donner à cette journée de la femme?
Vous voyez le tableau qu'on vient de nous brosser et que le secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, a pu voir de ses propres yeux palper. Il entendait, il avait des rapports, mais je crois qu'en une journée, il a vu l'horreur de la guerre. Et la première victime, c'est toujours la femme, les enfants, les vieillards. Et c'est surtout la femme. Et en mettant cette journée en exergue pour qu'on puisse penser à la femme, cela oblige chaque pays responsable en ce jour-là et pendant le mois de mars à se pencher un peu plus sur le problème de la femme pour porter des solutions appropriées. Ce n'est pas pour nous les femmes l'occasion de porter des pagnes, de chanter, de danser. C'est le départ d'un mois de réflexion sérieuse où nous allons voir, malgré les difficultés qu'il y a dans le pays, les solutions que nous pouvons apporter au problème de la femme. Et le grand problème du siècle, quand nous suivons les informations, même dans d'autres pays, surtout à l'est du pays, les violences sexuelles faites à la femme. Vous voyez, en deux mois, il y a 360, je crois qu'il y en a plus, parce que nous avons aussi le problème du tabou, du gêne, de la honte. Certaines femmes violées ne viennent pas se présenter dans les hôpitaux. S'il y a 360 qui se sont présentées, il faut ajouter au moins le tiers qui ne s'est pas présenté. Donc c'est un grave problème. Et quand je pense l'autre jour, en suivant un peu la réunion qu'il y a eu en Égypte pour la reconstruction de Gaza, j'ai dit, ah, ils sont heureux de temps des présidents, des chefs de gouvernement se réunissent pour apporter, il y a déjà promesse de 4 milliards. Et j'ai eu un peu le cœur un peu serré quand je pense ce qui se passe chez nous, combien de millions de déplacés, tout le monde vient se plaindre qu'on doit prendre des mesures. Si on mettait 1 milliard à notre disposition, combien de femmes pourront nous soulager? Vous avez entendu le docteur qui dit être en attente d'opérer 60 femmes souffrant de fistules. Donc, ils sont débordés. Je félicite les médecins qui travaillent à ce groupe. Et si je peux directement, puisque j'ai suivi le reportage, parler du fait qu'il y a l'impunité. C'est ce qui tue notre pays. Comment voulez-vous une armée où il y a eu des violeurs que, sans faire enquête, sans voir qui est qui, on va les intégrer directement? Et je crois que la réaction du secrétaire général de l'ONU est une bonne réaction, et que nous, les autorités politiques, quand nous disons nous, les autorités politiques, le gouvernement et le Parlement, nous devons prendre ça en compte pour qu'on puisse punir. On peut intégrer les gens, mais savoir qui est Alain, qui est Maputa, qu'est-ce qu'il a fait, parce qu'il y aura des dénonciations. Si vous prenez un grand violeur, vous le mettez dans l'armée et vous lui donnez des grades. Moi, je me rappelle, il y a un colonel qui disait, si nous avons, pour le moment, une armée mauvaise, il posait des questions aux mamans. Est-ce que ton enfant qui est intellectuel, qui est sage dans le temps, les mamans et les parents ne voulaient pas qu'ils aillent dans l'armée. Mais vous nous envoyez des enfants têtus. Vous-même, les parents, vous ne savez pas les contrôler et vous les envoyez à l'armée pour qu'on puisse les redresser.
Toujours en rapport avec la journée du 8 mars, vous l'avez dit tantôt, l'impression que nous avons, c'est que cette journée se réduit à des manifestations protocolaires, à l'achat d'un pagne, à la danse. Que faut-il pour donner son vrai sens à cette journée du 8 mars en RDC?
Moi, je crois que, comme le thème a été choisi sur le VIH-Sida, ça se lie avec les violences sexuelles, parce que beaucoup de femmes violées ont attrapé le sida. Donc, il faut qu'on approfondisse. Je ne suis pas contre les réjouissances. Nous sommes les Africains, nous exprimons même dans les deuils. Nous dansons pour exprimer nos sentiments. Mais ici, nous ne devons pas mettre l'accent seulement sur la partie extérieure. Si on m'avait demandé mon avis cette année-ci, j'aurais préféré que le 8 mars, on le fasse le plus possible sous la méditation, que les gens qui veulent bien aller prier, qu'on fasse des prières, qu'on fasse des journées de réflexion et la méditation pour montrer que nous sommes dans le deuil. Nous sommes dans le deuil, nos sœurs sont violées.
Chefs d'entreprise, dirigeants des institutions publiques et privées, responsables de syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche à partir de 7h, heure de Kinshasa.
Bernadette Nkoyi Masuta, vous êtes une ancienne vice-gouverneure de la ville province de Kinshasa, députée, secrétaire régionale à la condition féminine pour la même ville, actuellement sénatrice pour le compte du MLC. Actuellement, on note, par rapport toujours aux femmes, l'émergence de beaucoup d'associations féminines en RDC, mais pour quel résultat sur terrain? Nous avons posé la question à Fabiola Faïda Mwangigwa, ancienne ministre de la condition féminine et famille. On l'écoute.
Je crois que ce qui est plus important, c'est de comprendre que la femme congolaise est confrontée à beaucoup de difficultés et dans la recherche de la solution, le secret est le même. Plus vous êtes ensemble, plus vous pouvez faire face aux problèmes, aux difficultés qui sont les vôtres, parce qu'aujourd'hui, nous pouvons être de différentes sensibilités politiques et sociales et tout, mais par rapport à la question de la femme, en tout cas, là, il n'y a pas de divergence. La femme congolaise connaît beaucoup de difficultés et ce n'est pas une situation qui date d'aujourd'hui. Bien avant le déclenchement des conflits armés, la femme congolaise faisait déjà face à beaucoup de difficultés. Vous savez que lorsque dans un ménage, dans un foyer, lorsque le père ou le papa n'est pas payé, et c'est la femme qui doit répondre à toutes les exigences et les obligations familiales, comment couvrir le deux bouts de moi, ce n'était pas facile. Et même avec la détérioration du tissu social, avec tout ce qu'on a connu comme conflit armé, la femme a de nouveau payé les lourds tributs de tous ces conflits. Plus il y a des associations, Le but principal de ces associations, c'est d'essayer en tout cas de trouver des solutions, des réponses aux différents problèmes que rencontre la femme dans notre pays.
Bernadette Nkoïmafouta, il y a beaucoup d'associations féminines, mais nous avons encore l'impression que les femmes de la base ne sont pas touchées. Les manifestations se limitent aux femmes citadines, à une certaine élite féminine.
Ben, vous avez parfaitement raison. J'ai retenu un peu dans l'intervention de Madame la ministre Faïda Mwangila, que j'apprécie beaucoup. Parce que quand elle était à la tête du ministère, elle est parmi les meilleures. Elle a essayé, elle a pointé quelque chose là, sans distinction de tendance politique. Et elle a fait ça. Hein, parce que ça aussi, c'est un danger. Un jour, je faisais une conférence, j'ai dit aux femmes, maintenant nous avons notre parti, c'est le parti femmes. Alors, quand vous parlez qu'il y a beaucoup d'associations féminines, que vous avez l'impression que ça se fait que pour le dessus et vers le bas, on ne nivelle pas. Complètement raison. Souvent, j'ai fait la remarque aux gens, quand on nous appelle dans des conférences, dans des hôtels, des salles à la Gombe, en Galima, vous voyez toujours le secteur, ce côté-ci. Souvent, je conseille aux gens, je leur dis la prochaine fois, allons vers Gilly,
à la place périphérique,
vous allez voir même que vous allez être débordés, les mamans vont s'agglutiner, et même aux fenêtres, pour écouter ce que nous disons, c'est surtout ça. Nous devons faire cette descente vers la base. Et moi, j'étais contente, dimanche, nous avons fait dans le cadre de notre parti, Mme Bazaïb a organisé vers Kinkole. C'était une très bonne chose, il fallait voir l'engouement, les gens étaient contents. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a plein d'associations de femmes? Parce que les femmes sentent le besoin qu'avec tous les problèmes que nous rencontrons, nous devons nous unir. Même si c'est en musique, même quand ils font ces musiques, même le Likelemba, elles sentent qu'un seul doigt ne lâche pas la figure, il faut que nous nous mettions ensemble. C'est ce besoin-là de réussite qui nous demande. Mais maintenant, nous devons organiser, nous les cadres, comment étendre cela vers la base.
Alors nous allons nous pencher sur votre vie. Vous naissez le 14 octobre 1948 à Matadi, dans la province du Bas-Congo. Vous êtes mère d'une grande famille. Quels genre d'enfant étiez-vous?
Bon, je crois que c'est un peu difficile de parler de soi-même. Moi, j'ai été élevée pas par maman. J'ai été élevée par ma tante. Elle n'avait pas d'enfant, donc j'étais son enfant. Alors, elle avait un mari de peau métissée et moi, et j'avais une peau très claire, beaucoup de cheveux. Tout le monde savait que j'étais, même jusqu'à aujourd'hui, on l'appelle Maman Abena, Maman et Abébé. C'est elle. Et j'ai eu très vite des responsabilités. J'ai un souvenir que je garde toujours à l'âge de 7 ans. Elle devait traverser à Brazzaville, elles sont parties. Elle m'a dit, tu fais la cuisine. J'ai préparé le makayabou, un peu du riz potopoto là, mal un peu, et le makayabou, l'huile flottée. Je sais que c'est ça, quand vous faites du mal à quelqu'un, aux enfants, ça reste. Mais moi, c'est un bon souvenir. Et quand ils sont rentrés, avec papa José qui est diamant, et avec une autre tante, ils ont mangé. Elle m'a dit, ah, c'est bon, mais la prochaine fois, ils ont fait 7 ans. Et elle m'a donné beaucoup de responsabilités. On allait au marché avec elle. Elle préparait, j'étais là. Et parfois, elle me posait la question, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, j'étais dans une école à Mbassabouma, où c'était un internat des sœurs, où c'est vraiment une bonne école. C'est comme...
C'était quelle école, le nom?
Un Sacré-Cœur de Mbassabouma. Il y en avait 3. J'ai fait mes primaires au Sacré-Cœur de Mbassabouma et puis je suis allé la section gréco-latine, cycle inférieur, Sacré-Cœur de Kimweza, et puis le cycle supérieur, je suis venu finir ça au Sacré-Cœur de Kalina, à la Gombe, ici. J'étais très gourmande, j'aimais bien manger. J'aimais bien manger. Ah, donc, les responsabilités, elle m'a fait sentir directement ma valeur. Ah, ma tante, directement. Quand elle me consultait, maman Lulu Trouliani, on a mangé la viande, on a tout bien. Donc, tu vois, j'ai participé à la vie familiale directement. Et puis, comme c'était une jeune dame, tous les après-midi, elle allait prendre son pot, danser. Moi, je l'accompagnais. Et j'adorais aussi danser. Et j'étais comme la mascotte, je dansais. C'est pour cela l'oncle a dit non. Elle va se gâter. On m'a envoyé à l'internat. À l'internat, si on avait une discipline là chez les sœurs, bon, j'ai dit toujours, il y a eu une bonne discipline, une bonne éducation, une bonne instruction. Mais dans notre génération, il y a une chose que nous avons un peu ratée, c'est le mariage.
Vous le savez, la culture congolaise est tellement riche.
Oui.
Et chaque mot a une signification. Nkoi Mafuta, que signifie votre nom?
Ah, Nkoi Mafuta, Nkoi, c'est le léopard. Et Mafuta, au fait, un oncle m'a expliqué, le grand-père de ma maman, il s'appelait Antoine Mapita. C'est un Mungando de là-bas, hein, à la frontière là. C'était Mapita. Mais quand il est arrivé à Bouma, Hein, vous saviez, en ce moment-là, Boma était comme la capitale. Ils ont facilité ça, ils ont appelé ça Mafuta. Bon, maintenant, ça tombe bien aussi quand on dit que Mafuta de Big. Quand ils expliquent toujours les gens, Mafuta, vous, donc, costaudant, ne croyez pas, mais glissant des croyez, mais.
Elle est au parc qui tient sur ses jambes.
Oui.
Alors, vous êtes licencié en sciences politiques et diplomatiques et aussi agrégé de l'enseignement secondaire du degré supérieur de l'Université libre de Bruxelles, ULB. Mmh. En 1973, vous commencez votre carrière comme conseillère au Collège des conseillers du département politique et coordination des activités du Interparti État. En 1974, vous prestez comme conseillère au cabinet du commissaire d'État au même département. Ensuite, vous servez comme chef de service des entités décentralisées et des affaires administratives. Aujourd'hui, certains observateurs semblent sceptiques en ce qui concerne la prochaine décentralisation. Quel est votre avis?
Parcourant ma carrière, elle a été pratiquement une carrière dans ce qu'on appelle maintenant le ministère de l'Intérieur. Même la coordination du parti, c'était l'intérieur et tout. Et après, j'ai travaillé un petit peu, j'ai été commissionné d'abord chef de division et puis nommé directeur. J'ai fait une carrière plane dans l'administration. Donc, je ne regrette pas ce parcours parce que si aujourd'hui je peux tenir en politique, c'est parce que j'ai eu une bonne base dans l'administration. Parce que je sens parfois la différence avec les gens qui ont commencé comme politiciens purs. Et les règles de l'administration, les gens ont tendance à le négliger. Vous verrez par exemple un ministre qui s'adresse directement à un chef de division en province. Or, ce n'est pas comme ça. Il faut passer par celui qui...
Il y a une hiérarchie.
Il y a une hiérarchie. Ayant travaillé, parce que j'ai eu cette chance avec le Vundawi, Sima, de participer à la confection des textes sur la décentralisation. La décentralisation, c'est quelque chose de bien. Parce que notre pays étant vaste, ça rapproche l'administrant de l'administré et que ça donne une certaine autonomie aux organes de base pour participer à la décision comme les conseils et tout ça. Je regrette qu'on n'a pas encore terminé cette mise en place-là parce que moi j'ai dit que l'élection n'est pas encore terminée. On devait dire que nous avons terminé avec les élections quand on aurait fait les élections municipales et locales. Donc elle est très bonne, mais vous voyez même des pays comme la France, l'Italie, partout là-bas, ils ont été progressivement, 30 ans, 40 ans, dernièrement encore, je suivais, en France, il y a encore une certaine restructuration, parce que souvent la décentralisation dans les pays vastes est accompagnée de la restructuration territoriale, le découpage, prenons les termes, même si je n'aime pas ces termes, là, parfois, j'ai l'impression qu'on prend un ciseau qu'on coupe, mais ce découpage-là, justement, pour avoir des provinces, des régions. Mais il faut aller graduellement. Moi, à mon avis, ce n'est pas l'avis de mon parti. Ayant travaillé dans l'administration du territoire, quand dans la Constitution, on a prévu qu'on ira aux 26 provinces, donc 25 plus la ville de Kinshasa, en dehors les 3 ans, les gens n'ont pas vu loin. Nous, les politiciens, nous avons vu notre appétit pour que chacun soit gouverneur, même s'il va travailler sous un arbre. Nous le voyons, nous allons vers les 3 ans et on a pas encore commencé. Et moi, je crois que nous devons avoir le courage de revoir cela. Parce que mal appliqué, la décentralisation devient une catastrophe. Mais c'est un bon système. Si en cours, je vous dis, c'est pour que la base, justement, puisse participer à la gestion de son entité.
Bernadette Nkoyi-Mafuta, ancienne vice-gouverneure de la ville de province de Kinshasa, députée, secrétaire régionale à la condition féminine pour la ville de Kinshasa, actuellement sénatrice pour le compte du MLC. En 1975, vous êtes élue commissaire du peuple dans la zone de Béphalie. En 1982, vous travaillez comme directeur de cabinet adjoint du vice-premier commissaire d'État chargé de l'administration du territoire. En 1984, directeur chef de service des affaires politiques. En 1984, toujours, vous êtes devenu vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Vous-même, avez-vous déjà été victime d'harcèlement?
Non. En parlant vraiment franchement, harcèlement sexuel et tout ça, là même sur le plan administratif, c'est-à-dire, vous savez, il faut comprendre, surtout sur le plan travail, bien qu'il y a des malades parfois qui harcèlent les gens, mais ta propre position tout dépend comment tu te présentes. Tu te présentes parce que moi j'ai dit un homme et une femme, ce n'est pas l'extérieur qui compte, c'est le cerveau qui compte. Je le dis même quand un homme et une femme se marient, c'est pas deux corps qui se marient, c'est deux cerveaux qui se marient. Parce que s'il y a une trop grande différence entre ces cerveaux-là, souvent le mariage lâche. Et quand tu vas dans une administration, dans un ministère, dans un département, il faut aller d'abord voir que c'est votre cerveau qui y va. Le corps est seulement l'enveloppe qui le transporte. Et c'est parfois votre attitude qui influence le comportement des autres. Il faut aussi faire comprendre aux hommes qui sont avec vous que c'est une complémentarité. Celui qui a créé le monde, c'est pas pour rien qu'il a fait l'homme et la femme. C'est une complémentarité. Si vous, maintenant, actuellement, tant que la femme reste à un niveau bas, vous aussi l'homme, vous ne progressez pas. Donc nous devons nous compléter pour que nous puissions monter en face.
Il nous reste quelques minutes pour terminer cette émission. Je vous invite à suivre ce témoignage de quelqu'un qui vous connaît et que nous avons joint au téléphone pour vous.
Bonjour, je suis Madame Eve Bazaïba Massoudi. Par rapport à Madame Koïmafuta, je suis sa collègue au Sénat et c'est ma grande sœur. Ma grande sœur, c'est-à-dire mon aînée en politique, c'est une femme extraordinaire. Je l'ai entendue pour la première fois, c'était à la radio, il y a de cela quelques années, lorsqu'elle assumait les fonctions de vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Tous les jours à la radio, Maman Koïmafuta Salakiboué, Maman Koïmafuta. Alors c'était tellement l'idole, je me disais, à quoi elle ressemble cette dame? Maintenant que je l'ai approchée au MLC d'abord, c'est elle qui m'a accueilli à bras ouverts. Et puis dans le Sénat, c'est une femme de caractère sociable, quelle modestie. Surtout ce que j'ai retenu en elle, c'est une visionnaire. À tout moment, quand il y a des projections, des analyses politiques, on essaie d'échanger. Elle a toujours une phrase spéciale qu'elle me dit, « Maman Eve, je ne sens pas. » Alors quand elle me dit ça, « Maman Eve, je ne sens pas », j'ai peur beau douter, elle dit que ça va se réaliser. Mais chaque jour, à chaque minute, la question va se diluer et effectivement, on ne va rien sentir. Parce que Maman Koïmafuta l'avait déjà prévenu. Alors, il y a bébé, c'est comme ça qu'on l'appelle. Qu'on soit grand ou petit, dans le MLC, on l'appelle il y a bébé. Et puis même le président national du MLC, le président Jean-Pierre Bemba l'appelle toujours ma bébé. Et ça nous fait rire. Chaque fois qu'il est en face de ma bébé, et il se fait tout petit comme un enfant. Tout le monde, il est sali par la main, mais avec ma bébé, ce sont des accolades. Et souvent, ça nous fait rire. Je voudrais lui rappeler ça.
Le 8, vous le savez, c'est la journée internationale de la femme. Qu'est-ce qui doit être fait, à votre avis, pour améliorer concrètement les conditions de vie des femmes?
En tout cas, pour améliorer concrètement les conditions de vie des femmes, il faut d'abord reconnaître la femme comme être humain. Il faut reconnaître que les droits des femmes sont les droits humains. Et ainsi capitaliser tout ce qu'il y a comme compétence, initiative féminine dans tous les domaines et dans tous les secteurs. Les capitaliser, c'est-à-dire les comptabiliser dans tout ce qu'il y a comme programme officiel, même ce que la femme produit, des petits commerces, des activités génératives de revenus, qu'on puisse l'encadrer, les comptabiliser dans les PIB intérieurs. C'est à ce moment-là que nous allons lutter réellement contre tout ce qu'il y a comme violence faite à la femme.
Réaction Bernadette Koïmafuta. J'ai eu beaucoup d'émotions, beaucoup de rire, de plaisir.
J'ai eu même des frissons. Madame Bazaïba, ça, c'est une dame que j'admire parce que c'est une combattante. Hein. Elle a eu un autre cursus que moi, mais elle a eu un cursus de combattante pour arriver où elle est arrivée. Moi, je dirais peut-être que j'ai eu cette chance un peu, je ne dirais pas pistonnée, hein, parce que je me suis battue comme j'étais avec le président Mobutu qui me considérait comme sa fille. Mais il veillait, et dès que je faisais une erreur, il était là pour dire, vite à quoi, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais Madame Bazaïba, elle est une combattante. Moi, je l'admire. Je suis fier d'elle. Et sur le plan extérieur, je lui ai toujours dit, Eve, nous, on se complète. Moi, j'ai une grande assise sur le plan intérieur, et toi, tu as une grande assise sur le plan extérieur. extérieur. Nous nous complétons pour faire le travail, surtout quand nous parlons de notre président national, nous nous complétons. Faire la politique quand on est femme mariée, c'est difficile. Moi, peut-être, j'ai eu cette indépendance, j'avais divorcé depuis longtemps, donc j'étais seule, mais elle est femme mariée, c'est que j'admire en elle. Parfois, je l'appelle, je dis, mais tu ne répondais pas au téléphone, bien, on n'avait pas de courant, j'étais en train de faire le feu de braise, là, pour préparer pour papa. Elle appelle toujours son mari, papa. Et cette docilité, là, cette humilité, même dans le ménage, ça, je l'admire et elle ira loin.
Pour clôturer cette émission, un message à toutes les femmes qui vous suivent, tout en leur souhaitant bonne journée de la femme.
Je souhaite une bonne fête et je leur dis, comme je l'ai dit au début, la fête des mamans, ce n'est pas l'épargne, parce que je sais qu'avec la crise actuelle, tout le monde ne pourra pas se procurer ce pagne-là, même si tout le monde avait les moyens en petite quantité, qu'elles se mettent en tête que c'est une journée et le mois où on pense plus aux problèmes de la femme, comme l'a dit Ève, on le comptabilise, pour essayer de tout. Même si les solutions se prennent à petit pas, qu'elle ne se décourage pas, qu'elle soit contente que depuis plus d'une dizaine d'années, quinzaine, on est en train de s'occuper de la femme. Il y a un mois spécial de la femme, il y a une journée spéciale de la femme, c'est juste pour mettre un peu plus d'accent, mais moi j'ai dit le 12 mois, c'est à la femme, parce que c'est elle qui tient le ménage, c'est elle qui tient actuellement l'économie, donc je leur souhaite bonne fête, beaucoup de courage, et surtout à nos sœurs du Kivu, qu'elles ne se sentent pas abandonnées. Nous sommes avec elles, et je crois que cette année-ci, nous trouverons encore des bonnes solutions. Comme on nous dit que ça se calme là-bas, tant mieux. Touchons du bois, que ça ne se répète pas comme ça, nous aurons plus de moyens, plus de possibilités pour aller vers elles, pour pouvoir les consoler, surtout les soigner et les encadrer.
Bernadette Nkoyimafuta, merci d'être venue à Grand Témoin.
Alors, je vous remercie d'avoir pensé à moi, et je vous dis aussi bonne fête, hein, parce que quand la maman fête, le papa est à côté. Hein, vous êtes nos enfants, vous êtes nos maris, vous êtes nos frères, vous êtes nos oncles, donc bonne fête aussi à vous.
Merci. Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je recevais Bernadette Nkoyimafuta, ancienne vice-gouverneure de la ville province de Kinshasa, députée secrétaire régionale à la condition féminine pour la ville de Kinshasa, actuellement sénatrice pour le compte du MLC, à la technique Héritier Sidia Kala, à la présentation Alain Hérong. Retrouvez cette émission sur le site de Radio Capi, www.radiocapi.net, où vous pouvez réécouter toutes les émissions de Grand Témoin. Merci à tous ceux qui nous suivent à Inongo dans la province du Bandundu et partout dans le monde.